Chapitre 18. Quartier des pêcheurs, Saint-Louis, Sénégal. Appuyé au balcon, le commandant Artem Akinis observait les vagues lécher les pieds des maisons de pêcheurs posées sur la langue de sable entre l'Atlantique et le fleuve Sénégal. Il avait pris l'habitude, avec ses deux adjoints, d'alterner leur lieu de réunion. C'était au tour de Babou de les accueillir, chez lui, à Saint-Louis du Sénégal, où le lieutenant s'était aménagé une jolie villa dans l'ancien quartier colonial de la Venise africaine. Le policier en sortait de moins en moins. Il y vivait avec sa famille au sein d'une petite communauté de semi-sédentaires venus de tous les continents, qui fabriquaient leur pain, élevaient leur poulet, cultivaient leur riz et se réunissaient pour jouer de la musique ou simplement regarder l'océan moutonner. Artem se tourna vers Babou et Micha. Tous les deux buvaient un verre de bissap frais.
« Alors, du neuf ?»
Micha vida son verre et se reconcentra. Elle projeta sur le mur blanchi à la chaux de la villa les données qui tournaient sur sa tabletta.
« Oui, ça vient de tomber. Vous vous souvenez de notre suspect numéro un, le type fiché qui se trouvait à proximité de l'atoll Tetamanou ?»«
Le journaliste ?»
fit Babou en posant lui aussi son verre.
« Lilio De Castro, » précisa Artem. « Une star des médias bientôt intouchable. Le président Nemrod lui a accordé un entretien privé cet après-midi. »
Dehors, des pêcheurs tendaient leurs filets entre les arches métalliques du pont fait d'herbe. Des enfants se téléportaient des rives du fleuve jusqu'à chez eux dans leur cuisine pour apporter des poissons encore frétillants. Artem adorait la vie paisible de Saint-Louis, le parfum d'éternité qui se dégageait des façades aux couleurs vives, des balcons en fer forgé d'où les habitants prenaient le temps de s'interpeller, de somnoler, de regarder le soleil se coucher. Il chassa une pointe de nostalgie. Babou l'avait souvent invité ici à partager un poulet yassa avec sa famille. Il se souvenait s'être tenu sur ce même ponton avec Marianne, il y a quelques années, bien avant que Micha n'intègre le BIC.
« Eh bien, » continua la jeune Coréenne tout en faisant défiler à vitesse vertigineuse les visages des 120 000 supporters assis dans les rangées du stade Maracanã, « notre fameux journaliste a eu une journée bien remplie. Après sa virée dans les Tuamotu, son tête-à-tête avec Nemrod, il s'est rendu au stade. »
L'image s'arrêta soudain sur le visage barbu et les cheveux corbeaux de Lilio De Castro.
« Par contre, » enchaîna Micha, « aucune trace de notre tueur blond autour de Maracanã ni d'aucun autre terroriste. »
« Ils n'ont peut-être pas eu le temps de mettre leur plan à exécution, » suggéra Artem. Ils ne pouvaient pas prévoir l'évacuation. Sans l'œil du chat, jamais on n'aurait pu faire le lien entre le match et l'attentat. »
Darn Cat ronronnait à ses pieds, la tête plongée dans une écuelle de lait de chèvre que Philo, la fille de Babou, lui avait apportée. Micha se baissa pour le caresser, sans cesser d'argumenter.
« La coïncidence est un peu grosse, non? Ce Lilio De Castro se trouve à chaque fois là où il ne faut pas. »
Babou s'était à son tour avancé sur le balcon ensoleillé. Sur la plage, des pélicans blancs jouaient aux caïdes au milieu des poulets sauvages et d'une dizaine de chèvres. Depuis la fin du fléau des déchets, les rives de l'océan avaient été rendues aux oiseaux et aux ruminants.
« Ou plutôt, là où il faut, » nuança le Sénégalais. « Il doit être compétent s'il a été choisi par le président. Il est logique qu'il se trouve en première ligne sur les points chauds.
Près de Tetamanou avant même que le massacre soit commis ?» s'étonna Artem. « Dans le stade Maracanã avant même que l'alerte soit donnée ?
Je veux bien que la qualité principale d'un journaliste soit l'anticipation, mais là, c'est carrément de la divination. »
La queue de Darn Cat s'agitait devant le projecteur de sa tabletta, chatouillant la barbe de Lilio De Castro.
« Pousse-toi, mon darni chéri !»
glissa Micha d'une voix douce de maman attentionnée. Elle se tourna vers le lieutenant et le commandant.
« Ne vous chamaillez pas, les garçons. « J'ai une autre info qui va vous intéresser. »
Elle continua de faire défiler les visages des supporters sur le mur blanc. Presque tous portaient des tenues oriverdes.
« Lorsque l'alerte a été donnée, » expliqua la Coréenne, « les 120 000 supporters se sont évaporés du stade comme une volée de moineaux. Tous, sauf deux personnes. Elles sont repérables sur Pangaya aussi facilement que deux éléphants téléportés sur la banquise. La première s'appelle Cléophée Loisel. Une femme apparemment sans histoire, elle enseigne dans une école en France, habite une maison au Japon, banale quoi. et la seconde tête de mule à ne pas avoir activé son TPC. Attention, roulement de tambour et battement de tam-tam, n'est autre que le fameux Lilio De Castro.
L'écran se partagea en deux parties. Deux visages s'affichèrent en gros plan, ceux de Lilio et de Cléo.
Artem se leva d'un bond, coupant court à toute autre explication. « On fonce ! On les embarque tous les deux ! Ce type est dangereux !»
Il s'attarda un instant sur le visage de Cléo.
« Et cette femme est en danger !»
Misha ne réagit pas. Elle avait pris Darncat dans ses bras et le berçait comme un enfant.
« Trop tard, Arty !»«
Quoi ?»
explosa Artem.
« T'as pas bloqué leur TPC ?»
Babou, tout en laissant son regard glisser sur les murs colorés des maisons coloniales, écoutait avec intérêt leur conversation.
« Mon commandant !» s'offusqua faussement sa jeune adjointe. « Je vous rappelle que vous parlez à Misha Kim, la petite reine de Pangaea, la fliquette la plus qualifiée de tout le Bic pour naviguer dans les arcanes des bases de données. Évidemment, j'ai bloqué leur TPC, c'est la première chose que j'ai faite. Ni ce journaliste, ni cet instit ne peuvent se téléporter.
Alors on boucle le stade et on file les cueillir. »
Artem activait déjà le TPC à son poignet.
« Ils ne sont plus dans le stade, Arty. Ils sont partis. À pied. »«
À pied ?»
répéta stupidement le commandant.
« Bah oui, à pied. »
répéta à son tour Babou, réintégrant enfin la discussion.
« Une petite balade romantique dans la baie de Rio, je suppose. »
Il détailla les deux visages projetés sur le mur.
« Le journaliste est plutôt mignon, la petite institutrice carrément craquante. Tu trouves pas, Artem ?»
Le commandant ne répondit pas, mais conserva les yeux fixés sur le visage de Cléo. Misha coinça Darncat entre ses bras et frappa dans ses mains.
« Eh oh, les garçons, on réagit. Cette femme est peut-être la complice d'un terroriste qui a commandé l'assassinat de 10 braves retraités et raté de peu de multiplier par 10 000 son exploit dans le stade de Maracanã. »
Elle cliqua sur sa tabletta et projeta sur le mur une carte de Rio.
« S'ils sont partis à pied, ils ne peuvent pas être loin. Ils ont le choix entre l'université, le parc de Boa Vista et la favela de Mangueira. En mettant en place un commando kangourou dans Rio, on devrait facilement les repérer. »
Au sein du BIC, on appelait commando kangourou une chasse aux suspects, en général à haut risque, où l'on ne posait jamais les pieds plus de 10 secondes au même endroit.
« Babou !»
rugit le commandant Akinis. « Tu viens avec moi ! On récupère une 20aine d'hommes et on boucle le quartier !»
Misha s'apprêta à déposer son chat près de son écuelle de lait pour elle aussi se téléporter.
« Non !»
fit Artem.
« Ma petite reine de Pangaea, tu restes là. J'ai besoin de toi pour naviguer sur les bases de données. »
Il se connecta à la tabletta de Misha et fit réapparaître le visage du tueur blond sur l'écran.
« Jusqu'à preuve du contraire, le tueur, c'est lui. Cet homme a assassiné 10 personnes pour voler les places pour la finale, mais il n'était pas dans le stade. Pourquoi ? Où est-il ? Qui est-il ? Comment peut-il apparaître et disparaître sans laisser aucune trace ? Tu me le localises, Misha, t'as compris ? Tu me le localises et tu me le neutralises. »
« Bien, chef !»
Elle s'assit devant sa tabletta avec une moue boudeuse et reprit Darncat dans ses bras.
« Au fait, avant que vous ne partiez jouer aux gendarmes et aux voleurs dans les rues de Rio, qui peut m'expliquer ce fameux mot gravé dans le cocotier, Pichipoy ?»«
Plus tard, mon petit chat. »
eut juste le temps de répondre Babou. Le lieutenant sénégalais et le commandant Akinis disparurent l'instant d'après. La capitaine resta seule dans la villa du vieux Saint-Louis, coincée entre mer et fleuve, entre cris d'oiseaux et rires d'enfants, face au portrait géant du tueur blond. Elle pressa plus fort son chat contre son cœur. Elle adorait son grand regard bleu, son museau rose humide, la douceur de son poil de soie. Et se fit la réflexion qu'avec un nœud rose entre les oreilles, il serait encore plus mignon. Puis elle releva les yeux et dévisagea le tueur blond.
« Toi ?»
Doucement, elle murmura à l'oreille de son chat.
« Promis, Darny, où qu'il soit, on le trouvera. Le tueur de ta maman et de ton papa. »